Clayton Lone Tree a été en 1987 au centre d'un des plus gros scandales d'espionnage de la guerre froide. Ce soldat américain, âgé de 25 ans, qui appartenait au corps prestigieux des Marines, était chargé avec ses collègues de garder l'ambassade des États-Unis à Moscou, un véritable bunker retranché au milieu du territoire soviétique. Mais, séduit par Violetta Seina, une belle Russe qui travaillait à l'ambassade, ce jeune homme esselé et naïf a entamé avec elle une relation amoureuse, contrevenant à l'interdiction stricte de fraterniser avec l'ennemi.
Pardon, monsieur, que pensez-vous de ce qui se passe dans votre ambassade à Moscou?
Oh,
c'est scandaleux, choquant. Voilà résumé le sentiment de l'homme de la rue dans cette affaire de sexpionnage.
Clayton Lone Tree, a U.S. Marine sergeant at the American Embassy in Moscow, became a victim of a KGB honey trap.
La jeune femme, sous influence, l'a rapidement présentée à un agent du KGB qui a entraîné le Marine américain à lui fournir des renseignements.
Toujours le syndrome de l'oreiller chez les Marines. Syndrome de l'oreiller car certains soldats américains qui étaient censés protéger l'ambassade des États-Unis à Moscou ont succombé au charme de belles espionnes soviétiques et trahi leur pays pour le compte du KGB.
Une affaire de sexpionnage. Un grand classique de la guerre froide, me direz-vous. Dans un bar d'hôtel, une jolie fille...
Vous m'offrez un verre ?
Séduit un diplomate étranger, l'entraîne dans sa chambre et le lendemain, le diplomate, soumis à un chantage à cause de photos compromettantes, n'a d'autre choix que de renseigner l'ennemi. Il y eut aussi les Roméo, de beaux jeunes Allemands de l'Est, formés par la Stasi, qui séduisaient les secrétaires d'hommes politiques ouest-allemands. Des affaires de sexpionnage qui conduisaient parfois à des suicides. L'histoire de Clayton Lone Tree fut-elle aussi tragique? Celle d'un jeune homme d'origine amérindienne, inexpérimenté et solitaire, qui n'était jamais sorti de son pays, et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé à Moscou à partager la vie terne et stressante de l'ambassade la plus menacée de la guerre froide. Véritablement amoureux de Violetta, pris dans la spirale du chantage et de l'espionnage, Clayton Lone Tree a fini par tout avouer à la CIA. Mais au soulagement de l'aveu a vite succédé l'effroi quand sa mésaventure s'est transformée en cauchemar judiciaire. Arrêté, menotté, rapatrié aux États-Unis, interrogé pendant des jours et des nuits, puis jugé en cour martiale, le premier Marine de l'histoire des États-Unis inculpé d'espionnage s'est vu menacé de la peine de mort.
Marine Embassy Guard found guilty of espionage.
À Washington, le gouvernement et la CIA étaient en panique. Il y avait de quoi. Soumis au détecteur de mensonges, le jeune Marine avait avoué avoir laissé des agents du KGB pénétrer dans l'ambassade des États-Unis à Moscou. Mais quelle était l'étendue réelle des dégâts causés par Lone Tree? Les agents soviétiques avaient-ils accédé au CPU, le Communications Programs Unit, cette cellule en métal située au 7e étage de l'ambassade, le sanctuaire hyper protégé et prétendument inviolable de la CIA, où étaient codés et décodés tous les messages transmis entre l'ambassade de Moscou et Washington. Dans ce cas, les secrets américains étaient désormais entre les mains du KGB. L'affaire de sexpionnage a donc vite tourné au scandale. Mais Clayton Lone Tree, espion par hasard et par amour, portait-il à lui seul la responsabilité du désastre? En focalisant toute la lumière sur lui, son procès, très médiatisé, en faisait le bouc émissaire idéal. Idéal pour la CIA, mais peut-être aussi, nous le verrons, pour le KGB. Une chose est sûre, rien dans la jeunesse de Clayton Lone Tree ni dans sa formation militaire ne le préparait à s'embarquer dans une telle mésaventure. Clayton Lone Tree est né en 1961 à Chicago, où ses parents s'étaient rencontrés un an plus tôt dans un centre culturel amérindien. Son père appartient au peuple Winnipego, tandis que sa mère est née dans une réserve Navajo de l'Arizona. Les Navajo, qui sont encore un peuple très exotique pour la radio des années 60.
Une borne marque l'entrée du pays des Navajo. On a
réserve choisie par les Blancs.
Les Navajos sont des Indiens. Ils vivent dans les canyons rocheux et les plateaux déserts de New Mexico en Arizona aux États-Unis. Ce sont avant tout des bergers.
Deux autres enfants naîtront de cette union. Mais les parents, qui accumulent les problèmes financiers et se disputent sans cesse, se séparent rapidement. Pour le petit Clayton, c'est le début d'une enfance chaotique. Quand il a 5 ans, sa mère, visiblement dépassée par les événements, abandonne ses enfants à la réserve Navajo, où ils vont vivre en orphelins. 5 ans plus tard, leur père finalement les récupère et les emmène vivre chez lui à Saint-Paul, dans le Minnesota. Mais la vie avec le père n'est pas drôle non plus. Très sévère, cet homme alcoolique élève ses fils à la dure, exigeant toujours plus d'eux.
Je voulais que Clayton fasse quelque chose de sa vie dans le monde des Blancs. Je voulais qu'il se batte pour devenir un jour sénateur.
La pression est trop forte. Le pauvre Clayton n'arrive même pas à être le meilleur de son lycée au baseball. Livré à lui-même, manquant de confiance en lui, l'adolescent se renferme et se prend d'une passion surprenante pour le Troisième Reich, remplissant ses cahiers de croix gammées et de slogans antisémites. Mais en 1980, le jeune homme de 19 ans décide de changer de vie. Pour, dira-t-il, connaître l'aventure, l'action et surtout quitter le domicile paternel, il s'engage dans les Marines, incité peut-être par les pubs tapageuses à la télé.
Confidence comes with this uniform.
La confiance en soi vient avec l'uniforme. Et en devenant marine, tu gagnes cette confiance en faisant un travail dur, avec des compétences et des dons.
A team respected around the world.
Une équipe respectée dans le monde entier. Maybe toi aussi, tu pourrais être l'un d'entre nous, unique et fier, les Marines.
Véritable symbole de la puissance militaire des États-Unis, le corps des Marines, force d'intervention rapide du pays, est en charge des opérations spéciales et des missions de prestige. Surnommés les nuques de cuir, leather neck, à cause du col rigide de leur célèbre uniforme, les Marines forment la garde d'honneur du président des États-Unis. Et ce sont eux qui gardent les ambassades à l'étranger. Dès son recrutement, Clayton se plaît chez les Marines, où l'on ne semble pas faire de distinction raciale entre les soldats. Pendant 3 ans, il apprend le métier à la base militaire de Quantico, en Virginie. Il effectue sa première mission à Guantanamo, cette base américaine située au bout de l'île de Cuba. Pendant 18 mois, cette proximité avec l'État castriste fait découvrir aux jeunes Marines la réalité de la confrontation avec le monde communiste. Cet ennemi que, de manière théorique, il a été formé à combattre. En 1984, Clayton se met en tête de devenir Marine Security Guard, les gardes qui assurent la sécurité des ambassades. Il est admis, et après une brève formation, trop brève sans doute, dira-t-on plus tard, le jeune Marine est envoyé au cœur même de ce bloc communiste qui le fascine tant, à Moscou.
Moscow is the Soviet Union's political industrial center.
Moscou est le centre industriel et politique de l'Union soviétique.
It's a big city with more than 8 million residents.
C'est une grande ville de plus de 8 millions d'habitants.
Moscow, with its historical buildings and golden onion domes, is a throbbing, vital capital city.
Moscou, avec ses bâtiments historiques et ses coupoles dorées en forme d'oignon, est une capitale vivante et vibrante.
Clayton Lone Tree arrive à Moscou fin 1984. Aujourd'hui, nous le savons, 1984, ce n'est que 5 ans avant la chute du mur de Berlin et 7 ans avant celle de l'URSS. Mais à l'époque, personne ne peut imaginer que le bloc communiste vit ces dernières années. La tension est toujours vive entre l'Est et l'Ouest. Un an plus tôt, sous le règne de Youri Andropov, avec la crise des euromissiles, on est passé à deux doigts d'un conflit nucléaire en Europe. À Andropov, mort en 1984, lui a succédé le très conservateur Constantin Tchernenko, vieillard malade qui meurt à son tour en mars 1985.
Гроб с телом Константина Устиновича Черненко переносится с лафета на постамент.
Ces funérailles sur la place Rouge, grandioses et sinistres, perpétuent de l'Union soviétique l'image d'une gérontocratie indéboulonnable. Mais l'homme qui arrive bientôt au pouvoir semble d'une autre trempe. Mikhaïl Gorbatchev. Plus jeune, souriant, il a même réussi à séduire la dame de fer anglaise, Margaret Thatcher. Mais que valent les premiers signes d'ouverture et de détente lancés par Gorbatchev ? Lui-même aura-t-il le temps et la liberté d'engager des réformes ? Pour l'instant, c'est une vraie ambiance de guerre froide qui accueille Clayton Lawntree à Moscou. Comme tous les touristes, le jeune Marine se fait photographier sur la place Rouge devant le Kremlin. Mais la capitale soviétique est décidément grise et triste. Et à l'ambassade américaine, un énorme bâtiment de 9 étages sur le boulevard Novinsky, l'ambiance n'est pas plus chaleureuse. La plupart des employés, très diplômés et venant de milieux favorisés, ne s'intéressent pas à ce jeune soldat à peine dégrossi, amérindien de surcroît. Et les Marines se sentent déconsidérés. Leurs baraquements sont vétustes et sales, ils n'ont pas accès aux mêmes bars et aux mêmes boîtes de nuit que les autres employés. En revanche, le règlement des Marines en poste en ambassade est très strict, quasi monacal.
Leur fiabilité doit être absolue, 24 sur 24, qu'ils soient en service ou non. Ils doivent être célibataires et le rester durant toute leur mission.
Les Marines sont mis en garde en particulier contre les méthodes de pénétration des pays communistes.
Vous devez en permanence être en alerte contre leurs tactiques très spéciales qui cherchent à vous compromettre et à miner votre loyauté à l'égard de votre pays.
Même s'il n'est pas très heureux, Clayton, en bon Marine, fait son travail. Il est si bien considéré qu'en novembre 1985, il est détaché à Genève, où doit se tenir la rencontre au sommet de Ronald Reagan et de Mikhaïl Gorbatchev sur l'armement stratégique.
Sur place à Genève, des mesures de sécurité impressionnantes, vous vous en doutez, ont été prises. La ville a été véritablement quadrillée, c'est l'état de siège. Les résidences de messieurs Reagan et Gorbatchev sont bouclées, protégées, même par des canons de DCA.
De retour à Moscou, Clayton retrouve le train-train de l'ambassade. Mais un événement va bouleverser sa vie, pour le meilleur et bientôt pour le pire. Un jour, il aperçoit par la fenêtre une jeune femme qui marche sur le trottoir en direction de l'ambassade. Grande, mince, élégante. Elle doit être suédoise, se dit Clayton. Jamais il n'a vu une femme aussi belle. Il se renseigne et apprend que l'inconnue, russe en réalité, travaille depuis peu à l'ambassade. Clayton, qui rêve de la rencontrer, se met à guetter ses allées et venues. Un soir, alors qu'elle sort du travail, il la suit dans le métro, le fameux métro de Moscou qui fait la fierté du pays.
Pour les touristes, c'est un lieu de visite quasi obligatoire. Et pour les moscovites, c'est un objet de fierté avec des stations immenses, la plupart du temps en marbre ou en granit, décorées de fresques avec ici et là des mosaïques ou des statues. Dans les couloirs, comme sur les quais, il n'y a pas de mégots vu qu'il est interdit d'y fumer. Pas de papier gras non plus, ni de graffiti sur les murs. Un service d'ordre invisible mais omniprésent veille de 5h30 le matin à 1h le lendemain à ce que personne n'abîme ou ne détériore ce bien de l'État. Enfin, si le métro de Moscou est avant tout un moyen de transport utilisé quotidiennement par près de 7 millions de citadins, Il peut servir également d'abri anti-atomique. Tout a été prévu pour qu'en moins d'une demi-heure, les trois quarts de la population de Moscou, près de 5 millions de personnes, soient mises immédiatement à l'abri des bombes ou des missiles.
C'est sur le quai du métro que Clayton ose enfin l'aborder.
Hey! Bonjour.
Comme s'il la voyait là par pur hasard. Le Marine et la jeune femme montent dans le métro et échangent quelques mots.
Je suis traductrice.
Elle s'appelle Violeta Seina, elle est d'origine ukrainienne et juive. Un dernier élément qui ne semble pas troubler celui qui, il n'y a pas longtemps, ne jurait que par Hitler. Dans les semaines qui suivent, ils se rencontrent à nouveau plusieurs fois dans le métro et les deux jeunes gens se confient davantage. Mais Violeta a peur.
Écoute, Clayton, il faut que tu comprennes ma situation. Si le KGB est au courant, je peux perdre mon emploi. Ma mère aussi a peur.
Clayton est conscient lui aussi qu'il a enfreint la règle qui interdit toute fraternisation avec l'ennemi. Mais il est persuadé d'avoir été prudent. Et puis, après tout, se dit-il, le règlement à l'ambassade n'est pas vraiment respecté. D'autres Marines, il l'a vu, sortent avec des femmes soviétiques. Pourquoi pas lui ? En novembre 85, Clayton invite Violeta au bal annuel du corps des Marines de l'ambassade. Personne ne semble choqué de les voir parler et danser ensemble. Et un jour, trois mois après leur première rencontre, Violeta emmène Clayton chez elle. Ils font l'amour pour la première fois. Mais maintenant que Clayton et Violeta sont devenus amants, c'est le moment pour le KGB de sortir du bois.
J'ai un oncle qui voudrait te rencontrer. Mon oncle Sacha.
Je sais pas. T'es sûr que c'est pas un agent du KGB ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?
Il m'a demandé si tu n'étais pas un agent de la CIA. Non, c'est le frère de ma mère. Il est juriste, pas agent du KGB.
Clayton n'est pas rassuré, mais il accepte d'aller chez l'oncle Sacha dans la banlieue de Moscou. À leur arrivée, Violeta fait la bise à son oncle qui semble bien la connaître. Clayton se rassure. Autour d'un verre de vin, la conversation démarre avec des généralités sur les États-Unis. Ce qui fascine surtout l'oncle Sacha, ce sont les Amérindiens.
Et toi, Clayton, tu t'es déjà senti discriminé en tant qu'Amérindien ?
Oui, c'est arrivé. Mais bon, c'est la vie.
Ah non, en Union soviétique, ce n'est pas comme ça. Ici, tout le monde est traité de la même manière.
La méthode du KGB est bien rodée. Il s'agit de valoriser l'appât pour le mettre en confiance. Mais les fois suivantes, la conversation prend un tour plus politique. Tandis que l'oncle Sacha dit tout le mal qu'il pense de Ronald Reagan et de la CIA, Clayton est flatté. Pour la première fois qu'il est à Moscou, quelqu'un s'intéresse à lui et lui demande son avis.
Que penses-tu de Karl Marx et de Staline ?
Peu à peu, les questions deviennent plus sensibles.
Tu es déjà entré dans le bureau de l'ambassadeur ?
Et un jour, incidemment...
Tu sais, tu peux faire quelque chose pour aider l'Union soviétique.
Comment ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? En faisant quoi ?
À l'ambassade. Est-ce que tu connais quelqu'un de la CIA ? Est-ce que tu connais quelqu'un de la CIA ?
C'est le moment où tout a basculé, racontera plus tard Clayton lors de ses interrogatoires. Il comprend que l'oncle Sacha est en réalité un agent du KGB sans lien de parenté avec Violeta. Et elle ? Il est probable que la jolie traductrice a été envoyée par le KGB à l'ambassade pour y servir d'appât. Mais rien ne prouve qu'elle a sciemment séduit Clayton sur ordre du KGB. Sans doute, cette citoyenne soviétique n'a pas le choix. En revanche, contrairement à Clayton, elle sait qu'elle est surveillée. Mais pour quelle raison Clayton ne décide-t-il pas alors sur le champ de s'en aller ? À cause de Violeta, expliquera-t-il.
En dénonçant l'oncle Sacha, j'avais peur que le KGB ne se venge sur elle. Et puis je savais que mes supérieurs m'interdiraient de la revoir.
Mais plus surprenant, Clayton éprouve aussi le sentiment de vivre soudain une aventure, d'être enfin quelqu'un et de pouvoir tout maîtriser, comme dans un film de James Bond. En donnant des informations, il se dit qu'il pourra peut-être en obtenir d'autres et devenir ainsi une sorte d'agent double. C'est dans cet état d'esprit très confus que Clayton Lawntree se met à donner des renseignements à l'oncle Sacha. Notre marine américain est donc en train de devenir un agent du KGB, autrement dit un traître.
A marine shall never be a traitor. Shall never be a traitor.
À l'oncle Sacha, Clayton donne les noms des agents de la CIA de l'ambassade et le plan du 7e étage où se situent les bureaux de la CIA. Mais quand l'oncle Sacha, plusieurs fois, lui demande de placer des micros à l'ambassade, Clayton à chaque fois refuse. Le jeune marine, très naïf, a le sentiment ainsi de garder la main en ne donnant que des renseignements sans importance. Mais en mars 1986, après 18 mois à l'ambassade de Moscou, le contrat de Clayton Lawntree prend fin. Désespéré à l'idée de quitter sa bien-aimée, il se bat pour rester. Mais rien à faire, il est muté en Autriche, à l'ambassade de Vienne. Située à seulement 50 km du rideau de fer, Vienne a la réputation, pendant la guerre froide, d'être un véritable nid d'espions. En arrivant en Autriche, Clayton compte bien retourner un jour à Moscou revoir Violetta. Mais il est bien content de ne plus entendre parler de l'oncle Sacha et du KGB. Mais il rêve. Pas question pour l'oncle Sacha de lâcher son agent américain. Le voilà qui débarque à Vienne. Un soir, il retrouve Clayton devant l'opéra. Il l'embrasse, s'inquiète de le trouver amaigri et l'emmène dîner. Au restaurant, le Russe donne à Clayton une photo de Violetta et une lettre où elle affirme l'aimer toujours. Puis l'oncle Sacha pose une liasse de $700 devant Clayton, qui refuse.
Tu m'insultes si tu n'acceptes pas. Avec cet argent, tu n'as qu'à acheter une robe pour Violetta.
Clayton Lawntree obéit. Et comme sous emprise, se met à donner à Sacha des renseignements sur l'ambassade de Vienne. Le 5 décembre 1986, la pression monte d'un cran. Sacha apprend à Clayton qu'il doit rentrer à Moscou et il lui présente l'homme qui va le remplacer. Se faisant appeler George, le Russe, qui a un regard de tueur, exige de nouveaux renseignements. C'en est trop pour Clayton. Épouvanté, il décide de tout arrêter. Mais comment sortir de ce guépier ? Sa première idée est de se suicider. Après des jours d'angoisse et des nuits d'insomnie, le 14 décembre, il charge son arme de service et la place sous sa joue. Mais impossible de tirer. Il ne reste qu'une solution, se rendre et tout avouer. Le soir même, Clayton se rend à la résidence de l'ambassadeur où le personnel est réuni pour la réception de Noël. L'ambiance est joyeuse. Un immense sapin trône dans la salle de bal. Clayton, très nerveux, repère dans la foule l'homme qu'il cherche. Veste en tweed, lunettes, cet Américain au look de prof est officiellement chargé de mission. En réalité, Clayton le sait, il est le chef de la CIA à l'ambassade. Notre marine finit d'un trait son verre et se présente à lui.
Monsieur, j'ai de graves problèmes. J'aurais besoin de vos conseils.
Quel genre de problème ?
Quand j'étais à l'ambassade de Moscou. Je peux vous parler en privé.
L'officier, que nous appellerons Big John, entraîne Clayton à l'écart. Et là, d'une voix tremblante, le Marine lui raconte que lorsqu'il était en poste à Moscou, il a été en relation avec des agents du KGB. Effaré, Big John vérifie autour que personne n'a pu entendre.
Est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un ?
Non, monsieur. Vous êtes le premier.
Est-ce qu'il y a une femme dans l'histoire ?
Non, monsieur.
Ils vous ont donné de l'argent ?
Seulement 700 dollars.
Est-ce que vous leur avez donné des informations classifiées ?
Non, monsieur. Oh, monsieur, je crois que j'ai foutu ma vie en l'air.
Clayton Lawntree est soulagé d'avoir avoué, même si, comme vous l'avez remarqué, il est loin d'avoir dit toute la vérité. Mais cet aveu, il en a conscience, n'est qu'un début, celui d'un autre cauchemar qui va durer de longues années. Dès le lendemain et pendant 9 jours, dans une chambre de l'hôtel intercontinental de Vienne, Clayton Lawntree, très coopératif et en confiance, déballe toute son histoire à Big John, qui lui confirme que l'oncle Sacha et George sont bien des agents du KGB. Le soir du 24 décembre, alors que dehors il neige à gros flocons et que les Viennois, chez eux, fêtent Noël, d'autres agents américains débarquent en urgence à Vienne. Ils appartiennent au NIS, le Naval Investigative Service, c'est-à-dire le renseignement de la marine américaine. Ils sont là non seulement pour interroger Clayton, mais pour l'arrêter.
You're under arrest.
En larmes, Clayton reconnaît avoir trahi son pays par amour pour Violetta et en éprouver honte et remords. Mais les hommes du NIS sont persuadés qu'il ne dit pas tout. Notamment quand il affirme avoir toujours refusé de faire entrer des agents du KGB dans l'ambassade ou d'y placer des micros. Ils se disent que si l'oncle Sacha est venu jusqu'à Vienne pour relancer Clayton, c'est forcément parce que pour lui, il était un agent important. Le NIS décide de faire passer Clayton Lawntree au détecteur de mensonges. C'est cette troisième confession qui va être fatale au jeune Marine, poussé à bout par l'examinateur.
Mais vas-y, Clayton, parle.
Je dis la vérité. Je n'ai rien à cacher.
La machine me dit le contraire. Mais parle, nom de Dieu. Dis-nous n'importe quoi. Même un mensonge.
Ces derniers mots font craquer Clayton, qui en sanglots, pouvant à peine respirer, se met à raconter qu'il a volé pour le KGB des codes secrets de sécurité, des documents classifiés, et surtout, qu'il a fait entrer des agents soviétiques dans l'ambassade. Mais soudain, Clayton reprend son souffle et ses esprits.
C'est pas vrai. C'était un mensonge.
Mais c'est trop tard. Pour le NIS, Clayton Lawntree a avoué. Le lendemain, menotté, le Marine est rapatrié aux États-Unis dans un avion de la US Air Force. Il sera ensuite emprisonné, placé à l'isolement à la base de Quantico, là même où 7 ans plus tôt, il s'était engagé comme Marine.
Le Marine Clayton Lawntree, ex-gardien à l'ambassade de Moscou, actuellement arrêté pour espionnage, est sur le coup d'autres chefs d'accusation.
Début 1987, la nouvelle, rendue publique, fait scandale dans le monde entier. D'autant qu'on apprend que Clayton Lawntree, le premier Marine soupçonné d'espionnage, n'est en réalité pas le seul. Patrice Bertin sur France Inter.
L'épidémie n'est pas enrayée puisque 5 Marines en poste à l'ambassade américaine de Vienne en Autriche ont été rappelés d'urgence aux États-Unis. On les soupçonne d'avoir eu, je cite, « des contacts sociaux avec des citoyens des pays de l'Est ». Derrière cette expression pudique se cache peut-être une nouvelle affaire d'espionnage. En tout cas, ça n'arrange pas l'image de marque des Marines, le fer de lance de l'armée américaine, un corps d'élite dont le prestige est terni.
Rapidement, c'est une véritable panique qui semble saisir le gouvernement américain. Jean-Claude Paris, le correspondant à New York de TF1.
Ces Marines sont accusées d'avoir ouvert les portes de l'ambassade à leurs fiancés espions et de les avoir conduites dans les zones les plus sensibles du bâtiment. Par mesure de précaution, tous les Marines stationnés à Moscou vont être rappelés sous l'œil narquois des Soviétiques.
C'est quand même comique. On rapatrie 28 marines inébranlables
de leur ambassade américaine pour avoir été incapable de résister au charme d'espionne blonde.
À Washington, on travaille sur l'hypothèse la plus pessimiste. On n'exclut pas que tous les systèmes secrets de communication de l'ambassade soient devenus pour les soviétiques un secret de polichinelle.
Dans la mesure où nous ne savons pas, nous avons envisagé la pire des hypothèses, selon laquelle tout pourrait éventuellement avoir été compromis.
Plus tard, ces accusations contre les autres Marines se révéleront fausses. Mais pour l'instant, les spéculations les plus folles se donnent libre cours. Le KGB a-t-il eu accès au CPU, la cellule ultra-sécurisée de l'ambassade de Moscou, et ainsi aux secrets les mieux gardés du renseignement américain? Le fiasco est tel que lorsque George Shultz, le secrétaire d'État de Reagan, se rend en avril 87 à Moscou, il évite de se rendre à l'ambassade, soupçonné d'être truffé de micros, et, situation ubuesque, Shultz préfère, pour discuter avec ses diplomates, se réfugier à l'extérieur dans une simple camionnette. Pendant ce temps, Clayton Lone Tree, toujours détenu à l'isolement, organise sa défense pour son procès. Il apprend qu'il risque la peine de mort et que des Marines, très remontés contre le traître, se portent volontaires pour le peloton d'exécution. Mais au fil des semaines, la polémique, d'abord concentrée sur les Marines, prend une autre tournure. Elle s'étend au problème plus large de la sécurité des ambassades américaines, dont le cas Clayton Lone Tree, on s'en rend compte, n'a été qu'un révélateur. On découvre que l'ambassadeur en poste à Moscou, Arthur Hartman, a fait preuve de laxisme en matière de sécurité. Des machines à écrire étaient sous écoute, les employés soviétiques nombreux à travailler à l'ambassade et les relations dites pudiquement de fraternisation très fréquentes. Par exemple, Galia, la gentille cuisinière qui mitonnait de bons petits plats pour les Marines, était envoyée par le KGB. De même que la coiffeuse qui venait chaque semaine réaliser les mises en plis de Madame l'ambassadrice. Et on commence à se poser la question. Le renseignement américain n'avait-il pas intérêt à faire porter le chapeau à Clayton Lone Tree, simple marine et amérindien? On croit avoir touché le fond, mais le pire arrive quand on apprend que la nouvelle ambassade américaine de Moscou, alors en chantier depuis des années, est elle aussi déjà truffée de micros avant même d'être terminée.
Voici la future ambassade des États-Unis à Moscou. Elle est littéralement truffée de micros et de fibres optiques. Normal, on a laissé les ouvriers soviétiques travailler sans surveillance, ou presque. C'est bien simple, notre ambassade n'est qu'un gros micro de 8 étages directement branché sur le Politburo. Les experts disent qu'il faudrait 5 ou 10 ans pour y assurer de nouveau la sécurité. Il est donc de plus en plus question de la détruire. 190 millions de dollars qui risque donc de partir en fumée.
L'année suivante, Ronald Reagan donnera l'ordre de faire raser le bâtiment. C'est dans ce contexte, pour le moins troublé, que le 22 juillet 1987 s'ouvre le procès en cour martiale de Clayton Lone Tree, sous le coup de 13 chefs d'accusation, dont le plus grave, celui d'espionnage. Et un mois plus tard, le 21 août, le verdict tombe. Annoncé ici par la radio d'Oklahoma City, qui présente en même temps la météo.
Le Marine garde d'ambassade a été jugé coupable d'espionnage. Bonjour, il est 8 heures, le ciel est clair. Vous écoutez KMBC Oklahoma City. Notre correspondant Eric Engberg a couvert le procès.
Après 3h50 de délibération, un jury militaire a déclaré le sergent Clayton Lone Tree coupable d'espionnage et de 12 autres chefs d'accusation. Lone Tree a été décrit par les procureurs comme un traître qui a vendu son pays pour du sexe et de l'argent fourni par le KGB. Pendant la lecture du verdict, Lone Tree était debout entre ses avocats, visage impassible, ne trahissant aucune émotion. Le jury se réunira lundi pour établir la peine qui peut aller jusqu'à la prison à perpétuité.
Les avocats et la famille de Clayton Lone Tree contestent le verdict. Pour son frère, il est clair que l'Amérindien a servi de bouc émissaire.
Je suis sûr qu'ils se sont dit « trouvons un bouc émissaire ».
Ils connaissaient les origines de mon frère et ils ont pensé, après tout, on le choisit lui. Il doit venir d'une réserve.
Le lundi suivant, Clayton Lone Tree est condamné ni à mort, ni à la prison à vie, mais à 30 ans d'emprisonnement. Le condamné accepte la sentence sans broncher. En envoyant l'espion Lone Tree en prison, le tribunal militaire a voulu faire un exemple. Mais au fil des années, la sentence sera plusieurs fois réduite. Et finalement, le Marine ne restera que 9 ans en prison. La justice a en effet pris en compte l'acharnement des services de renseignement et du gouvernement à désigner un coupable pour masquer leurs propres échecs en matière de sécurité. Il a été confirmé que Clayton Lone Tree n'a fourni au KGB aucun renseignement vital pour la sécurité des États-Unis. En aucun cas, on ne pouvait lui imputer le problème bien réel de la porosité de l'ambassade de Moscou. Un autre élément a été décisif pour anticiper la libération de Lone Tree. En 1994, un agent de la CIA, Aldrich Ames, était arrêté. Les Américains découvraient alors que depuis 1985, Aldrich Ames était une taupe fournissant des renseignements extrêmement précieux au KGB. Pour empêcher la CIA de le découvrir, le KGB, en 1987, avait fait en sorte que les Américains portent leur attention sur les Marines de l'ambassade à Moscou. Clayton Lone Tree avait donc servi de leurre au KGB. Pour la petite histoire, à sa libération en 1996, Clayton Lone Tree est interviewé pour un documentaire sur le sexpionnage. L'ex-marine, devenu espion par amour, n'a pas de rancune envers Violetta Seina, la plus belle femme qu'il avait jamais vue. Ce qu'ils ont vécu, dit-il, était authentique. Il la respecte et lui pardonne.
She was the most beautiful woman I've ever seen in my life. What we had back then was genuine. I respect her. I forgive her.
Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan, un podcast original de France Inter. Documentation Frédéric Martin, mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo, avec les voix de Grégoire Roqueplot, Marguerite Klöckner, Benoît Marchand et Laurent Stocker de la Comédie-Française. Réalisation Audrey Ripouille.